Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Dans la dernière chronique, nous étions dans le fjord de McMurdo et Grant, notre collègue néo-zélandais, nous a détaillé les activités des différentes bases scientifiques qui sont installées. Aujourd'hui, nous avons quitté ce fjord, en route vers le nord, le long de la côte Victoria, le littoral qui borde à l'ouest la mer de Ross. Et nous avons rencontré des conditions de glace et de vent assez rudes qu'il a fallu gérer tout en finesse. Donc Thomas, l'officier chargé de la navigation à bord, va maintenant nous expliquer tout cela.
Bonjour, donc moi c'est Thomas Babonneau. Je suis l'officier polyvalent à bord du Perseverance. Et donc je suis avant tout le lieutenant de navigation. Je m'occupe de la mise à jour et l'entretien de la documentation nautique, la préparation des routes et l'analyse de la météo et des glaces ici particulièrement. Et en plus de ça, j'aide le chef mécanicien à toutes les tâches de maintenance du navire, surtout sur le moteur et la machine en principale, dès que j'ai le temps en dehors de mes quarts. Moi, je fais le quart de minuit à 4h et de midi à 16h tous les jours. Voilà.
Bon, donc là, pour le moment, on est en passerelle, il fait tout beau. Mais dans les jours qui ont précédé, là, quand on était dans McMurdo Sound et qu'on est sorti, on a eu quelques épisodes un peu chauds, tant au niveau glace que météo, hein, c'est bien ça?
Oui, donc on a été un petit peu embêté et presque pris par les glaces en sortant du Sound, à la frontière au nord de l'île de Ross, c'est entre Beaufort et Cap Bird. On a rencontré pas mal de glaces qui s'étaient déplacées avec le vent vers le sud. Là, on est sorti d'affaire un petit peu. On a passé l'île Franklin où on était en lisière de glace. On se dirige vers Coulman Island où on aimerait voir une colonie de manchots, mais d'après les prévisions, on risque de devoir contourner l'île qui est actuellement prise par les glaces encore. Donc on se dirige le long de la côte de la Terre de Victoria. On se dirige vers le nord, normalement, plus on sera sorti d'affaire par la glace. On a des cartes qui nous indiquent que sur le nord, on devrait être tranquille pour les trois prochaines colonies autour du Cape Hallett, avant le Cap Adare et la grosse colonie de la mer de Ross.
Oui, parce que un des objectifs de la mission, c'est de faire un inventaire des colonies de manchots et plus généralement de la faune dans ce coin-là. Donc on essaye d'aller de colonie en colonie. Et justement, quand on est arrivé hier sur l'île Franklin, en plus d'être dans la glace, au niveau météo, c'était pas top. Hein.
Exactement, on s'est pris un bon coup de vent là de sud-sud-est qui était annoncé à 30-35 nœuds. Au final, on a eu sur zone 45-50 en rafale. Donc on a eu une manœuvre de mouillage un peu sportive avec une arrivée à la voile sur l'île un peu plus rapide que prévu. On s'est mis au mouillage, on a agréé le tourmentin pour être prêt au prochain coup de vent. Heureusement, les conditions se sont améliorées et depuis, le vent est tombé, on est bien plus tranquille là pour remonter la côte. Mais c'était un peu sport, ouais. On n'a pas pu malheureusement faire l'inventaire en drone comme on l'aurait voulu car il y avait trop de vent et même trop de mer pour débarquer en annexe sur la plage. Ouais.
Oui, et je me souviens, il neigeait à l'horizontale carrément, donc en plus il y avait une visée très très réduite. Bon, c'est les conditions de l'océan austral. Alors justement, au niveau prévision tant météo que glace, en 2026, il y a eu beaucoup de progrès par rapport, on va dire, au siècle dernier. Explique-nous un peu qu'est-ce que tu as comme information pour justement les prévisions glace et météo.
Alors pour la météo, grâce à Internet, on a des bases comme Windy, mais aussi on utilise des fichiers GRIB. On fait des requêtes tous les jours et on charge sur nos cartes électroniques qui nous permettent de faire un mini routage de la route tous les jours au fur et à mesure. Donc on reprend ces fichiers quotidiennement, même plusieurs fois par jour. Ça nous donne des prévisions plus ou moins fiables en fonction des zones.
Ce qu'on utilise, c'est des modèles globaux, hein, notamment le ECMWF, c'est le modèle européen qui couvre la Terre entière. Alors quand c'est des prévisions au grand large, en général, ils ne se trompent pas. Mais quand on est au fond de la mer de Ross et dans des recoins comme le McMurdo Sound, évidemment, les phénomènes locaux ne sont pas trop pris en charge. C'est pour ça, entre autres, qu'on s'est pris 50 nœuds un peu de manière inattendue. Bon, et maintenant, côté glace, alors ?
Et côté glace, on utilise l'application ICC qui en fait centralise toutes les images de PolarView, un site internet qui a donc des images satellites, qui nous donne des images satellites optiques, des images satellites radar qui nous permettent de voir à travers les nuages principalement, et qui même a un système de prévision de la dérive des glaces. On a principalement les cartes de concentration de l'université de Brême en Allemagne qui sont les plus rapidement actualisées. Et ensuite, sur zone, on arrive à avoir des images très précises, radar des îles. Et après, c'est à nous de les interpréter, déterminer déjà les zones de glace et l'évolution potentielle le jour avec la météo qu'on a sur zone.
Pour les auditeurs, il faut préciser qu'il y a deux types de glace. Il y a ce qu'on appelle la glace de mer, la banquise, donc c'est de la mer qui gèle. Et il y a aussi tous les gros bouts de glace qu'on appelle les icebergs qui ont été vélés par les glaciers terrestres. Alors ce qui nous embête principalement en navigation en ce moment, c'est la glace de mer. On est en milieu d'été, donc elle s'est pas mal brisée, elle a commencé à fondre, mais il y en a encore pas mal. Par contre, évidemment, quand il y a de la glace terrestre, là, des gros icebergs ou des plus petits qu'on appelle des gros leurres, eux, on ne va pas les chatouiller parce que c'est de la glace beaucoup plus dure, donc ils pourraient beaucoup plus endommager la coque que la glace de mer. Bon, le fait de pouvoir recevoir des fichiers GRIB météo et des cartes glace plusieurs fois par jour, c'est dû au fait qu'on a, des moyens de communication satellite qu'on n'avait pas encore il y a 20-30 ans, c'est bien ça?
Ouais, déjà on a une connexion internet continue, même jusqu'au fond de la mer de Ross, ça c'est assez impressionnant. On arrive du coup à avoir des images quasiment toutes les 12 heures, toutes les 24 heures des endroits qu'on visite. Ça nous permet, moi pour tracer les routes en tout cas, par exemple pour rentrer dans la mer de Ross, ça m'a permis d'anticiper précisément le passage ouvert, le couloir. Et là on peut aussi gagner du temps et avant d'éviter de se buter contre la glace et de devoir contourner, on a fait des routages un peu plus directs et plus optimisés en tout cas.
Et d'ailleurs, quand tu parles de tracer la route, non, on est en cartographie électronique et on n'est plus en cartographie papier comme on l'était avant. Explique-nous un peu ce que c'est que ce système-là, l'EGDIS.
Oui, alors nous, on a encore les cartes papier à bord, mais on utilise aussi principalement l'EGDIS. C'est des cartes vectorielles, en fait, donc qui ont été numérisées et en plus qui maintenant réagissent avec les caractéristiques du bateau. Qu'on rentre et les routes qu'on trace pour nous donner des alarmes de profondeur, de danger, de zone à restriction. Et qui permettent donc de faciliter la navigation puisqu'on a un suivi GPS tracé en direct sur la carte. Donc c'est plus simple, le point est fait automatiquement entre guillemets pendant tout le quart.
Alors je vais faire une comparaison, on va dire d'un vieux con. De mon temps, on avait des cartes papier et les seuls moyens de navigation qu'on avait, c'était en vue des côtes, les jumelles et le compas de relèvement, et au large, le sextant pour faire des points avec le soleil ou avec les étoiles. Et on reportait ça avec un compas et un crayon de papier sur la carte papier. Ben maintenant, tout se passe de façon automatique sur des cartes électroniques, comme Thomas l'a expliqué. La position est donnée, encore une fois, par des satellites qui donnent la position GPS. Et les cartes, ben, c'est des cartes papier numérisées. Voilà, le monde change. Un dernier point, pendant ton quart, tu as commencé à revoir le soleil se coucher, alors que ça faisait plusieurs jours qu'on avait de la journée continue. Explique-nous un peu ce que c'est que ces histoires par rapport à la latitude, au cercle polaire et tout ça.
Depuis deux semaines, on était en jour continu. Donc moi, le quart de minuit à 4, qui est censé être le quart de la pénombre complète, j'avais une lumière de coucher de soleil permanente, magnifique. Et là, voilà qu'on remonte la côte, on était descendu jusqu'à 77 degrés et 50 minutes, et là, nous voilà à 74 degrés sud, donc on remonte, et surtout on fait cap au nord, donc cette nuit, le soleil, pour la première fois depuis deux semaines, s'est couché et est descendu. Ah, donc on a encore une luminosité constante, mais on retrouve un début de jour quand on se rapproche du cercle polaire antarctique.
La définition du cercle polaire qui est à 66 degrés sud, en gros, c'est bien la limite à partir de laquelle on peut avoir du jour continu l'été et de la nuit continue l'hiver, c'est bien ça ?
C'est ça, mais au solstice d'hiver, du coup, pour nous, et donc ici d'été, le 21 décembre. Donc là aussi, on avance dans l'année, on s'éloigne du solstice, les journées, entre guillemets, raccourcissent ici, mais on est encore sur des journées très très longues, 22h, 23h, quoi.
Oui, la petite chose qu'il faut préciser, c'est que là, on est en hémisphère sud, et chers auditeurs, il y a une inversion des saisons entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. En ce moment, là, on est le 13 février ici, ça commence à être la fin de l'été. Ça serait l'équivalent chez nous dans l'Hérault du 13 août. Voilà. Donc Thomas, là on est à naviguer entre les îles Baleines et le vent était monté brutalement parce qu'on est parti du mouillage sur la première île, il y avait pétrole et là maintenant on est à 30-35 nœuds et j'ai vu que pour dérouler les voiles, vous avez tout fait à deux. Sur un bateau de 350 tonnes. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment c'est possible ?
En effet, là, on avait 15 nœuds annoncés entre les deux îles et forcément, avec le goulet, on a eu un peu plus. Là, on a plus 30 nœuds. Ce qui est parfait ici, c'est qu'on peut tout piloter de la passerelle pour ce qui est manœuvre. On s'est mis face au vent, face à la houle. Et après, avec Romain, le matelot, on peut, lui, au winch hydraulique, donc aucun effort physique en plus. C'est à la pédale et à la gestion. Et moi, à la télécommande, on peut dérouler les voiles. On a d'abord envoyé la grand voile, donc là, pareil, pas besoin de forcer, c'est tout hydraulique. Moi, je supervise et je monte au pied de mât pour m'assurer que les bosses de riz filent bien et sont bien prises. Mais c'est aucun effort et c'est toujours tout bien pensé pour tout et depuis le cockpit, à deux. On fait des allers-retours à l'avant quand même pour vérifier les réglages, mais il n'y a pas besoin de transpirer pour faire ça. Ouais. Voilà, en direct. Là, on a stoppé le moteur, donc on n'a plus de propulsion. On n'est qu'à la voile et du coup, il faut une petite pompe et un petit groupe électrogène pour faire tourner le reste quand même. Donc là, le gréement, on a donc deux mâts, mais on a juste une grand voile arrière, sur le mât arrière, et ensuite que des voies d'avant. Donc le Yankee pour le grand recouvrement, ensuite le Génois, et on a même gréé un tourmentin pour être prêt à se prendre des gros coups de vent dans l'Austral. Et ensuite, derrière, on a le foc qui a une plus grosse voile d'avant aussi et une trinquette qui nous permet dans tout temps de manœuvrer. Donc comme c'est très rafaleux, qu'on a eu des pointes à plus de 35-40 nœuds, on a mis deux ris, trinquette pour commencer, sachant qu'on a quelques heures de voile avant de retourner au mouillage. Et ensuite, on risque de rouler les voiles dans la foulée.
Ce bateau-là, j'ai vu, quand on est dans des bonnes conditions de vent, il peut facilement monter à 12 nœuds à la voile, hein, c'est ça ?
Oui, alors c'est un assez gros bateau, donc il n'est pas très bon dans les réglages fins. Par contre, dès qu'on a des vents bien établis, dès 15 nœuds de travers, on peut monter à 10 nœuds. Avec la toile du temps, on peut facilement faire du 12 nœuds, 13 même, c'était les pointes dans la descente. Là.
Ok, bon, alors maintenant parlons économie de gasoil. Si on est au moteur seul à 1500 tours, on est aux environs de 40 litres heure, c'est ça ?
Ouais, quand on est à 100%, on peut atteindre les 50 litres heure, ce qui nous fait quoi, une tonne de gasoil par jour, si on fait ça pendant 24 heures. Là, quand on est en voile moteur, dans le petit temps, on réduit déjà 30% dans tous les cas. Et quand on a de quoi faire que de la voile, on a juste un groupe électrogène qui tourne, qui est à moins de 10 litres heure, autour de entre 5 et 8 litres heure. Quoi. Donc ça nous fait 200 litres par jour. Quoi.
D'accord, donc on économise à peu près d'un facteur 5 la consommation au moteur seul. Donc bah oui, ça vaut le coup d'être sur un voilier, quoi. Bon, Thomas nous a bien expliqué toutes les caractéristiques techniques de Persévérance, qui est un navire assez particulier. Et heureusement que l'équipage maîtrise parfaitement son fier navire, car ça nous a permis de progresser sur notre route, malgré ces conditions difficiles. Et maintenant, Jean-Louis, on est où ?
Là, on arrive à Cap-Palette. On est en train de remonter vers le nord en suivant la côte ouest de la mer de Ross, et il y a une colonie de manchots ici qu'on va aller longer comme ça pour avoir une idée effectivement de ce qui se passe. On est à la mi-février, à cette époque-là il y a déjà les petits avec leur duvet qui sont prêts à partir, donc c'est ce qu'on va explorer. On s'en sort bien pour le moment parce qu'il y a beaucoup de glace, à la fois de la glace de mer résiduelle mais aussi une érosion qui vient de l'érosion des icebergs. Donc pour le moment, on s'en sort bien. On a eu une nuit assez agitée avec des rafales à 40-50 nœuds, beaucoup de mer. Donc en ce moment, on est au mouillage ici, à Capalette, on se repose.
Donc on se repose un peu avant de repartir vers le nord, vers l'archipel des îles Baleines, qui seront le sujet de notre prochaine chronique. À bientôt donc, chers auditeurs. Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout de bon air. Voilà, tout de bon air. Tout de bon air. On l'a tout de bon air. Ok.
Ah, là, j'ai l'air de...
Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça ?